Allez, avec notre second invité ce vendredi, on va maintenant prendre notre microscope et tenter de regarder à la loupe ce nouveau variant du Covid-19 dont la découverte a été annoncée hier en Afrique du Sud. Quelles sont ses caractéristiques? En quoi cette nouvelle mutation est-elle différente des autres? Quelles conséquences cela peut-il avoir sur la pandémie et l'espoir suscité par la vaccination? Pour en parler, on retrouve tout de suite Étienne De Crolly. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes virologue, directeur de recherche au laboratoire du CNRS, architecture et fonction des macromolécules biologiques, un labo qui se trouve à l'université d'Aix-Marseille. Étienne De Crolly, ce nouveau variant, d'abord, que sait-on sur lui à ce stade, 24 heures après l'annonce de son apparition?
Alors évidemment, quand on a un variant qui apparaît comme ça, ce qu'on a comme première information, c'est les données de séquence, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble de la séquence de son génome. Et sur base de ces informations, les scientifiques ils peuvent évidemment regarder dans les différentes protéines où se localisent les mutations et faire des prédictions plus ou moins sûres de conséquences éventuelles qu'on peut déduire des mutations qu'on observe.
Et là, les grandes différences que l'on observe avec ce nouveau variant par rapport au précédent, quelles sont-elles? Est-ce qu'on les a déjà cernées?
Alors oui, évidemment. Alors ce qu'on observe particulièrement, c'est la protéine Spike, qui est la protéine à la surface du virus qui va reconnaître le récepteur cellulaire ACE2 et qui va permettre au virus de rentrer dans la cellule. Mais c'est aussi la protéine qui est reconnue par les anticorps chez les patients qui ont été infectés ou qui ont été vaccinés avec les différents vaccins. Et donc c'est celle-là qu'on regarde vraiment avec beaucoup d'attention parce que c'est là qu'on va voir si éventuellement les variations qui sont apparues permettent ou ne permettent pas d'échapper au contrôle vaccinal, permettent de mieux reconnaître le récepteur et permettent éventuellement d'assurer une meilleure transmission entre individus. Et donc, c'est ces différents points clés qu'on va essayer de regarder au niveau moléculaire.
Mais à ce propos, on ne sait pas, on n'est peut-être pas encore capable de dire si c'est un variant qui est plus contagieux ou plus résistant au vaccin ?
Alors, il y a des indices qui suggèrent qu'en tout cas, il est plus contagieux parce que la vitesse avec laquelle il apparaît dans la population semble extrêmement rapide et préoccupante. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que sur base d'études antérieures, eh bien, on peut déduire déjà qu'une partie des domaines qui sont bien reconnus par les anticorps générés chez les patients qui ont rencontré préalablement le virus ou qui ont été vaccinés, une partie de ces domaines portent des mutations qui vont largement diminuer la capacité des anticorps induits par les vaccins à contrôler ce virus. Et donc, ça pose une question évidemment clé aux autorités sanitaires et aux entreprises qui font de la vaccination, c'est quand est-ce qu'on va adapter les vaccins aux souches qui circulent aujourd'hui de manière à avoir une meilleure protection avec les vaccins, dans la mesure où aujourd'hui, conceptuellement en tout cas, ça ne pose pas de problème d'adapter les vaccins au virus qui circule.
Étienne De Crolly, ça veut dire aussi qu'on est finalement condamné à voir régulièrement apparaître de nouveaux variants du Covid comme pour la grippe?
C'est très probable, effectivement, que le virus du Covid ressemble davantage à un virus comme la grippe qu'à des virus qui sont plus stables génétiquement. Et donc, on est probablement condamné à vivre avec ce virus. Ceci dit, on peut espérer que sur le moyen et long terme, l'immunité qui va s'établir dans les populations nous permettra quand même de mieux contrôler ce virus. Et on peut espérer que sur le moyen long terme, évidemment, on ait des épidémies saisonnières, mais qui soient de moindre amplitude que celles qu'on connaît aujourd'hui. Mais on n'est pas encore arrivé à ce moment-là. Et évidemment, on ne peut pas prédire a priori les trajectoires évolutives des virus, vu que c'est un processus qui se fait en temps réel. Et donc, il est extrêmement difficile, évidemment, d'être très assertif sur ce genre de questions.
C'est le deuxième variant qui est découvert en Afrique du Sud, Étienne De Crolly. Pourquoi est-ce que ce pays est-il aussi propice à leur développement?
Alors d'abord, c'est pas nécessairement ce pays qui est particulièrement propice. Il faut savoir que l'Afrique du Sud a des puissances de séquençage particulièrement importantes pour les virus et que donc cette capacité de surveillance fait qu'on détecte peut-être mieux une partie de l'iceberg parce qu'on l'observe, alors que dans d'autres pays, le séquençage systématique et très régulier n'est pas assuré. Donc ça, c'est une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, c'est que ces virus, en fait, ont circulé quand même de manière relativement importante dans les pays africains. Et dans ce contexte, évidemment, il y a des nouvelles pressions de sélection qui sont liées à l'immunité qui s'établit dans la population. Et donc, les virus qui vont continuer à être capables de se répliquer correctement sont des virus qui échappent partiellement au contrôle par par ces anticorps dits neutralisants. Et donc, ces deux raisons expliquent pourquoi on trouve peut-être plus en Afrique du Sud ces variants. Il y a un biais.
Étienne de Crolli, est-ce que ce n'est pas aussi l'illustration du cri d'alarme qui est lancé par les scientifiques depuis des mois, à savoir que si on n'aide pas les pays hein, les moins fortunés, les moins aisés à vacciner leur population, eh bien, on constitue là des foyers qui sont propices à la naissance de ces variants?
Je ne peux que souscrire à ce commentaire. On est tous unis face aux épidémies et donc il est évidemment extrêmement important que l'accès à la santé soit un accès à la santé pour tous et que les vaccins soient déployés partout dans le monde. Et ça n'est qu'en ayant une stratégie globale qu'on va pouvoir lutter contre les virus qui ne connaissent pas les frontières. Et toutes les stratégies de repliement sur soi et qui consisteraient à regarder juste ce qui se passe à gauche ou à droite en fermant les frontières, eh bien, vont avoir une efficacité limitée parce que, évidemment, on ne contrôle jamais complètement la circulation aux frontières. Et donc, si on n'a pas de stratégie globale, on ne s'en sortira pas face aux infections virales de ce type.
Merci beaucoup, Étienne de Crolli, d'avoir répondu à nos questions sur RFI. Je rappelle que vous êtes virologue, hein, directeur de recherche au laboratoire du CNRS, architecture et fonction des macromolécules biologiques. Merci à vous.
Merci.